Alors, très rapidement, beaucoup d'années sur Tours, puisque donc la compagnie a été créée en fait en 1979.
D'accord, oui.
Donc c'est vieux,
Ça
hein.
remonte un peu, oui.
C'est très très vieux, c'est quasiment deux générations par rapport à la charmante personne qui me pose des questions. Donc en 79, justement, salle des tanneurs à la fac de lettres de Tours, de l'université. Voilà, on a été pendant quelques années une compagnie amateur.
D'accord.
Mais travaillant de manière un petit peu particulière à ce moment-là, puisque on travaillait uniquement sur des créations, sur des textes contemporains, et puis immédiatement aussi sur un travail en direction des publics, c'est-à-dire que on faisait beaucoup de lectures, des théâtres à domicile, on amenait des auteurs à
C'était
Tours.
directement de la médiation finalement.
Et c'est ce qu'on a appelé après la médiation. Voilà, donc qui était issu du travail d'action culturelle aussi propre aux politiques culturelles de la décentralisation théâtrale. Et puis, donc, en 1986, la compagnie est devenue professionnelle. On a poursuivi ce travail-là qui n'était pas uniquement un travail de création, même si on a eu beaucoup de chance pendant très très longtemps de tourner énormément en France et dans toute l'Europe. Donc ça, c'était pour nous passionnant de confronter nos univers de création à des publics extrêmement divers. Et puis sur Tours, on a eu un premier lieu qui s'appelait la menuiserie, donc dans lequel on a pu mettre en place ce travail. D'ouverture, ce qu'on a appelé travail d'ouverture des démarches de création au public.
Mais ça, finalement, c'était un peu les missions de la compagnie aussi, les objectifs à
C'est ce qu'on a
tenir.
voulu faire depuis le départ, c'est-à-dire que il faut juste s'imaginer qu'en 79, sur la place de Tours, il n'y avait pas grand-chose, que il y avait deux autres compagnies professionnelles, ce qui se passait au Grand Théâtre de Tours. Et puis après, il y a eu une programmation à la fac de lettres, hein, donc salle des tanneurs, qui est devenue la salle Télème. Et puis c'est tout, quoi. Donc
D'accord.
nous, d'emblée, avec notre propre formation, puisque nous sommes issus, les membres fondateurs de la compagnie, de l'éducation populaire, on a eu envie aussi de faire ce travail-là, de dessemer au maximum la parole artistique et théâtrale, quoi.
D'accord. Mais alors, je vous coupe du coup,
Oui, il
mais
faut.
les personnes à la base du projet, vous étiez qualifiées ou c'était quelque chose que vous faisiez en pratique amateur
En 79, c'était en fait, on était issus des pratiques amateurs.
D'accord.
Voilà, mais en même temps, avec comment dire, avec la chance à ce moment-là que tout nous était possible. Je veux dire, il n'y avait pas de, pour nous, il n'y avait aucune contrainte. C'est-à-dire que moi, la première pièce que j'ai adaptée et que j'ai montée en tant que metteur en scène, alors que je voulais pas être metteur en scène, hein, c'est simplement
Ouais, c'est venu comme ça.
Voilà que mes quatre camarades m'ont dit, t'as des meilleures idées que nous, t'as qu'à donner toutes les idées, ça ira plus vite. Et donc je suis devenu metteur en scène. Mais le premier texte, par exemple, était aussi le premier texte d'un jeune auteur à ce moment-là. Je lui ai écrit, il m'a donné les droits, et il se trouve que j'ai monté le premier texte d'un auteur qui est devenu un des piliers de la littérature de langue française. Il s'appelle Tahar Ben Jelloun, qui est l'un des
D'accord.
plus grands auteurs contemporains. Et on a démarré sur ce type de répertoire-là, en même temps sur une problématique dont on parle maintenant toujours, hein, mais à ce moment-là, c'était un petit peu, comment dire, on va dire avant-gardiste pour aller
Oui, c'était
vite, hein,
beaucoup moins
pour.
démocratisé qu'aujourd'hui, on parlait
Bah, il y
beaucoup
avait
moins
beaucoup
de...
moins de choses, quoi. Et donc, on a travaillé à chaque fois sur des choses qu'on ouvrait. On a été, par exemple, puisqu'on est à Radio Campus, au cœur de ce qui allait devenir le passeport culturel étudiant.
Oui, tout à fait,
C'est
j'ai
nous
trouvé
qui
ça.
l'avons fondé avec des profs de carrière sociale de l'IUT. Donc voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On a travaillé, on a fait les premiers liens, par exemple, avec Radio Béton, ou avant avec Radio Transistor, les radios libres qui étaient
D'accord.
interdites. On a fait les
Ah, vous
premières.
avez été un peu aux prémices de plein de choses sur la ville de
Ben
Tours
oui,
et
puisque
à
il se
l'origine de
trouve
plein
que,
de
voilà,
projets.
puisqu'à ce moment-là, il y a. y a eu des ouvertures, plein d'ouvertures, et nous, avec l'appétit qui était le nôtre et l'envie de faire plein de choses et de bouffer.
Et dans divers domaines, du coup, ça touchait vraiment beaucoup de domaines.
Ce qu'on appelle maintenant la pluridisciplinarité, c'était ça. Hein. On a travaillé au CCC quand il a été créé. On a fait des créations à l'intérieur du premier centre de création contemporaine, du CCC de Tours, là. On a travaillé aussi avec les musiques, par exemple les ensembles médiévaux, mais on a aussi travaillé avec, par exemple, j'ai un souvenir totalement marquant des escaliers du hall de la salle Telem maintenant, où on a fait une espèce de folie totale entre texte, théâtre d'un auteur qui s'appelait Michel Deutsch, et puis un jeune groupe de Tourangeau qui s'appelait Les Forget Me Not. Les Forget Me Not, c'est Claire Diterzy.
Oui.
Donc avec Claire à ce moment-là. Voilà, on croisait toutes les formes possibles artistiques. Donc le premier bateau ivre, le premier petit faucheux, le deuxième petit faucheux, le jazz, le rock.
Oui, un petit peu toute l'évolution de ces salles en ville et toute la
exactement, puisqu'on était là, quoi. Puisqu'on était présent et qu'on avait aussi cet appétit et qu'on a toujours. D'ailleurs, si on parle du Plessis, le Plessis, on parlera des résidents, par exemple, qui sont accueillis au Plessis, sont toutes les formes artistiques. Si par exemple on est maintenant et on a ouvert les premiers îlots électroniques, c'est chez nous, c'est au Plessis. Donc d'années après, les vieux sont toujours là et sont toujours aux avant-gardes.
Et justement, pour parler du Plessis, donc vous y êtes arrivé en 1998, c'est ça ?
C'est ça.
Donc ça, vous avez été
bien
bossé
le dossier, mademoiselle.
Ça a été mis à disposition par la mairie de Tours.
Oui.
C'est ça, donc c'était un accord que vous aviez passé. On vous l'a proposé, on vous l'a proposé ou c'est vous qui avez...
Alors, si vous voulez, pour que les choses soient bien claires, hein, depuis 1986, avec évidemment des hauts et des bas et des discussions, la ville de Tours a toujours été notre partenaire historique, principal partenaire, y compris pendant les années la direction de la ville par monsieur Jean Royer, qui n'était pas du tout un amateur de pop musique, ni de rock, ni de rien du tout. C'est celui qu'on a appelé, c'était un grand monsieur pour cette ville, mais qu'on appelait quand même le père la pudeur. Et malgré tout ça, et malgré nos désaccords politiques, on a toujours travaillé ensemble.
Vous avez toujours été soutenu,
toujours.
Quand même,
Et la ville nous a toujours soutenus. C'est Jean Royer qui a inauguré notre premier théâtre, qui s'appelait La Menuiserie. Et ensuite, quand Jean Germain a été élu maire de Tours en 1995, il a poursuivi ce soutien-là. Et c'est en fait parce que notre lieu, La Menuiserie, n'était plus aux normes de sécurité de l'époque et que la mise aux normes coûtait très très cher, que Jean Germain m'a proposé de visiter un château qui était fermé depuis, qui avait été fermé par la municipalité d'avant, Jean Royer, qui était... c'était un musée de Louis, sur Louis XI pendant très très longtemps, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945 donc, et il était fermé parce qu'il n'y avait pas, il n'y avait rien à voir, ou très peu de choses à voir. Sauf des histoires imaginaires, ça marchait bien dans les fantasmes et les peurs des petits collégiens, des petits écoliers et collégiens qu'on amenait de la ville de Tours. Et puis, donc, il a été fermé dans les années 90. Donc, c'est un lieu qui était déjà en très mauvais état au niveau de la toiture, des combles, des corniches, etc. Et qui commençait à tomber aussi en ruine à l'intérieur. Les travaux qu'on a menés, nous, à ce moment-là, en 1998, c'est un lieu qu'on ne connaissait pas parce qu'il était fermé.
Oui, oui.
Et même, je veux dire, même nous, on ne savait pas du tout. Quand je suis arrivé dans ce parc qui est quand même qu'à un quart d'heure du centre-ville, à 10 minutes d'ici, et qu'on se dit, tiens, mince, ça existe. C'est un lieu, même s'il est en mauvais état, et s'il était déjà en mauvais état,
c'est quand même
qui est magique, c'est un beau lieu.
Ouais, bah oui,
et en même temps, c'est un lieu qui, pour notre projet artistique, c'est-à-dire travaillant sur les ouvertures des démarches de création, sur des résidences, nous permettait de mener à bien et de développer notre projet artistique. Donc avec très peu d'argent, hein, puisqu'on a fait tous les travaux. À l'époque, on a eu 500 000 francs.
D'accord.
500 000 francs, donc 500 000 francs divisé par 6, ça ne fait pas grand-chose hein, pour retrouver. En gros, 80, je ne dis pas de bêtises, hein, ouais, 80 000 euros. On en a fait le lieu avec des salles de spectacle, des salles de répétition, avec des mises aux normes à tous les niveaux, avec des bureaux, avec un lieu d'hébergement, avec donc trois studios de répétition. Parce qu'on a eu beaucoup de gens qui nous ont aidés bénévolement, des entreprises amies qui ont travaillé avec nous, et on a sauvé ce lieu. Les choses sont claires.
Bah oui, en plus de vous l'occuper, ça faisait aussi revivre.
Bien sûr, ça faisait d'un point de vue public. Bah effectivement, on est passé d'un musée qui attirait très très peu de monde à une moyenne en gros entre 12 et 15 000 spectateurs chaque année dans une salle qui ne contient que 80 places.
C'est-à-dire que il y a quand même une grosse activité.
Il y a une énorme activité. Et donc, d'emblée, ce projet-là, qui était ce qu'on avait toujours fait, hein, c'est-à-dire ce qu'on a appelé après la mutualisation des moyens, c'est-à-dire qu'on accueillait d'autres équipes artistiques en résidence, on a partagé les lieux, sans qu'on nous le demande. Ça faisait partie de notre travail qu'on menait déjà à la menuiserie, notre ancien lieu. C'est devenu un lieu où effectivement on a exploré toutes les formes artistiques, toutes les passerelles possibles, et ça c'est capital, en toute liberté. C'est-à-dire que on n'a pas nous de la prétention de dire ça c'est du bon théâtre, ça c'est du mauvais, donc vous êtes une bonne compagnie, on vous accueille, vous êtes une mauvaise, on vous accueille pas, votre musique c'est de la merde ou votre musique elle est géniale, donc on vous accueille, on vous accueille pas. Pour nous, ce qui était important, c'était de sentir des gens qui avaient une passion, un engagement, un vrai engagement artistique, c'est-à-dire que c'était sincère. Qu'on n'était pas avec des faiseurs ou des petits branlotins. Voilà, que c'est des gens qui ont envie de se donner. Et à partir de ce moment-là, nous, on n'a pas et on se refuse. Parce qu'évidemment, moi, j'ai des goûts artistiques. Il y a des choses qui me parlent, qui m'émeuvent et d'autres qui m'ennuient profondément. Mais on n'a pas du tout voulu s'ériger comme un espèce de jury qui dirait ce qui est bon. Voilà. Donc du coup, c'est un lieu extrêmement vivant où toutes les expériences sont possibles. C'est un lieu qui accueille toutes les formes de théâtre, qui a aussi accueilli des écrivains. Il y a des pièces qui ont été écrites en résidence au Plessis, qui a des ateliers d'art avec des plasticiens contemporains permanents.
C'est un lieu de création permanent.
Complet. Voilà, par exemple, on accueille aussi des tournages de films. On a un travail sur les images et la vidéo. On a donc au niveau de la musique, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de voir que par exemple, on a enregistré des CD d'ensemble de musique médiévale, mais aussi le dernier CD des Noces Gitanes a été enregistré intégralement au Plessis. Et qu'il y a cette richesse. Nous, ce qui nous importait de là où on vient, c'est-à-dire avec notre histoire, c'est qu'on sait que c'est compliqué socialement d'amener beaucoup de gens à la chose culturelle et au rendez-vous culturel, au rendez-vous artistique. Mais on est aussi persuadé que tout un chacun peut parfaitement, du jour au lendemain, être totalement ébloui par un choc artistique. Et que notre mission à nous était de multiplier les possibilités et les formes artistiques pour que n'importe qui, à un moment donné, tombe amoureux et qu'il y ait de nouvelles portes qui s'ouvrent.
D'accord. Et alors du coup, aujourd'hui, tout ça s'est un petit peu remis en question. Votre présence au Plessis, c'est un bras de fer avec la municipalité. On va en parler tout de suite. Et donc depuis 1998, vous êtes au Plessis et aujourd'hui, vous avez un petit peu une sorte de menace comme quoi.
Ah non, on n'a pas un petit peu. Non, c'est pas une menace. On est expulsé au 1er janvier 2016. La décision, il m'a été annoncée pour que ça soit clair pour nos auditeurs.
Oui.
Donc, aux dernières élections municipales, qui datent de 2014. Donc une nouvelle majorité est arrivée aux affaires, comme on dit élégamment.
Élue à la municipalité.
Voilà, et donc avec sa tête un maire que je connaissais bien depuis toujours, puisqu'il était adjoint du temps de Monsieur Jean Royer, ce qui veut dire que ça faisait longtemps que je connaissais Monsieur Serge Babary, avec qui j'avais beaucoup d'estime. Et puis très très vite, hein, c'est-à-dire très vite. Quand je dis très vite, c'est que y a eu une première chose très très étonnante, c'est que quand les élections ont eu lieu, j'ai eu aucune nouvelle de la mairie, ce qui est quand même étonnant parce qu'on avait une subvention importante, 145 000 euros depuis les années Jean Royer, et ça je tiens à le préciser. C'est une décision qui remonte de plus de 20 ans, plus de 20 ans, et qu'on avait un lieu quand même emblématique mis à disposition avec des conventions annuelles par la ville de Tours.
Oui, du coup, c'était des conventions annuelles. Et donc...
Toujours. Mmh. C'est des conventions annuelles de mise à disposition du Plessis. Hein. Mmh. Avant, c'était la menuiserie. Après, donc, ça a été... ça a été le Plessis. Et donc, à chaque fois qu'il y a eu des changements, quels qu'ils soient, hein, au conseil général devenu départemental, à la région, au niveau de la ville, on venait voir ce qui s'y faisait dans ce lieu-là. Mmh. Et là, j'ai pas eu du tout de nouvelles. Donc, je savais que Madame l'adjointe à la culture, Madame Beuzelin, recevait tout le monde. Mais pas nous.
Pas vous, ouais.
Donc j'ai demandé rendez-vous, j'ai eu un premier rendez-vous au mois de juin. Donc ça faisait, si on fait le compte, c'est notre 30e saison. Donc j'ai eu droit à 30 minutes. Donc une minute par an de travail dans la ville de Tours. Déjà c'est extrêmement marquant. Et j'ai eu droit à une question, une seule. Combien de représentations, combien de spectateurs ? Alors, je dois avouer que j'étais un peu glacé en sortant de ce premier rendez-vous et que je me suis dit que là c'est des choses qui ne collent pas très bien, quoi. Voilà, et puis à ma demande, ça va permettre peut-être de faire une petite pause parce que je parle beaucoup, à ma demande d'échanger sur l'avenir, hein, sur ce qu'on allait pouvoir faire ensemble, puisque la ville venait avec un projet artistique, j'avais lu leur programme, avec des choses dans lesquelles on pouvait parfaitement se retrouver. Et puis nous, on a notre projet artistique qui est connu, qui est multiforme, qui est, etc. Et il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas des passerelles communes et que ce partenariat-là historique se poursuive. Donc à ma question de quand est-ce qu'on allait travailler ensemble pour il m'a été répondu qu'aucune décision ne serait prise avant la rentrée de septembre. Parfait. Or le 11 juillet, un mois après, j'ai eu une nouvelle réunion qui devait pas du tout concerner l'avenir de la compagnie, mais un spectacle qu'on devait monter dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale et le jouer à la mairie. Donc j'ai rendez-vous avec le premier adjoint. Madame l'adjointe à la culture était encore là. Et là, on m'a annoncé immédiatement, donc début juillet, trois mois après les élections, que la subvention serait baissée en 2014, que la subvention sera encore baissée en 2015, pour certainement disparaître en 2016, et que je devais me préparer à quitter les lieux.
Donc ça, dès juillet 2014.
Immédiatement. Ce qui veut dire immédiatement, c'est-à-dire sans que cette nouvelle équipe ne connaisse mon projet artistique, ne sache ce qu'on avait fait, ne connaissent mon histoire.
Directement, vous étiez victime des réductions budgétaires.
Et sans connaître, y compris, le château du Plessis. C'est-à-dire que personne n'avait encore visité ce château-là. Ouais. Monsieur le maire ne connaissait pas, et madame l'adjointe non plus. Et c'est là où les choses sont un tout petit peu étonnante.
Que voilà, vous avez la municipalité, vous dites partir, et vous avez mis du coup de ce fait-là en place des pétitions et des soutiens.
Non, si vous voulez, ce qu'on a fait après, c'est que on a essayé de discuter. En juillet 2014, on n'a pas lancé.
Non, pas directement. Oui,
pas du tout. On a essayé. J'ai revu le maire deux fois. J'ai vu l'adjointe deux, trois fois. Ce n'est qu'au mois de mars qu'on a appris que la décision était totalement définitive pour eux.
En mars 2015, du coup.
Ouais.
C'est ça.
Ouais. Ouais, donc on a, nous on a essayé à chaque fois de discuter, de dialoguer, d'essayer de voilà, de poursuivre ce travail-là. Il n'y a jamais eu le moindre dialogue. Toutes les réunions consistaient à dire on n'a plus les moyens, on va baisser les subventions et vous devez partir du lieu donc au 31 décembre 2015. Alors pour que les choses soient claires, hein, ça veut dire qu'effectivement, ils annoncent des problèmes budgétaires qu'ils ont, de fait. La baisse des subventions de la culture de la ville de Tours en 2015, elle est de 3%, la baisse d'ensemble, ce qui est pas grand-chose dans une situation de crise. La baisse de la subvention de la compagnie par la ville de Tours, elle est de 54%.
Oui.
Je veux dire, déjà, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Mmh. On ne peut pas passer de 145 000 euros à 70 000 euros en à peine 2 ans sans dégâts. Ça, c'est une évidence.
Oui, oui.
Voilà,
en fait.
C'est impossible à récupérer. Tout le monde sait qu'une compagnie de théâtre aujourd'hui ne peut pas récupérer sur son budget 75 000 euros. Alors, effectivement, on met en place des plans de licenciement. On était, il y a 5 ans, 11. On était plus que 7. Et là, on n'est plus que 2,5 postes. Donc, effectivement, on a licencié. C'est une entreprise. Hein, c'est des plans douloureux.
Oui, oui.
Ce qu'on voit tous les jours au niveau de l'actualité sociale, c'est ce qu'on a vécu, nous aussi. Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, quand on a compris que qu'il n'y avait pas de dialogue possible, on a
vous
essayé de montrer qu'on n'était pas seul. Voilà.
Et vous êtes soutenu par un certain nombre de personnes, je crois.
Alors, on a
artistes,
un comité de soutien de 300 personnes, plus de 300 personnes.
Des gens qui viennent de partout.
De toute la France et même de l'étranger. Hein, puisqu'il y a le directeur de l'opéra de Rouen, des directeurs de centres dramatiques nationaux, des grands noms du théâtre, de la musique, de la littérature, et puis aussi de tout un chacun, des gens. Qui signe de partout. On a des signatures de Dakar, de New York.
Et vous avez, je ne sais plus combien de
4000,
personnes.
4000. On a dépassé maintenant 4000 personnes qui ont signé une pétition qui demande un dialogue entre la ville et nous.
Alors,
effectivement, ça n'a pas plu.
C'est pour l'emmener, j'imagine, au maire à une certaine échéance.
Oui, puis leur montrer, leur faire savoir qu'on n'était pas tout seul, contrairement à ce qu'ils se disaient. Leur faire savoir que c'était un projet qui était soutenu. Donc, il faut dire aussi qu'actuellement, le Plessis Théâtre, c'est 800 stagiaires en formation, dont, de manière très claire, plus de près de 1000 heures de formation, avec notamment, parce que ça, il faut le dire, 8 ateliers permanents hebdomadaires, donc 4 avec des adultes en situation de handicap mental, de certaines IME ou des adolescents qui trouvent là un travail régulier extrêmement positif. Ça veut dire ça. Ça veut dire les ateliers enfants, les ateliers adolescents, les ateliers adultes. Ça veut dire des conventions avec l'Université de Tours, avec l'IUT de Tours, avec le CHU, puisque nous sommes aussi en charge de la formation des infirmières des blocs opératoires, des mineurs en difficulté qui sont sous protection du ministère de la Justice, avec lesquels on travaille au Plessis. Que ça veut dire ça? C'est pas Canel Lopez tout seul en train de faire
c'est pas
Mémuse.
Juste une compagnie, ça touche depuis le temps. Tout plein de milieux. Bien évidemment, en 30 ans, il y a largement.
Voilà. Et à côté de ça, c'est aussi un lieu où je ne suis pas tout seul à occuper le château. Nous avons cette saison 32 équipes
en résidence.
Donc plus de 160 artistes
en
musique, en danse, en théâtre, en art plastique. Et contrairement à ce que a encore dit Madame l'adjointe lors du dernier conseil municipal, aucune de ces équipes-là n'a été relogée ailleurs par la ville. Mm-hmm. C'est totalement faux. Donc ça veut dire tout ça.
Donc ça veut dire tout ça
laissé.
Voilà.
Et ce qui veut dire
c'est
qu'au 1er janvier,
deux employés. Tout plein de
compagnies. Ni deux employés, ni le vieux barbu qui n'arrête pas d'enquiquiner tout le monde depuis tant d'années.
Mm-hmm.
C'est aussi ça.
Ouais.
Ça veut dire aussi ça. C'est-à-dire que voilà, il y a une pièce de théâtre qui avait été écrite par Ionesco il y a très longtemps, qui ressemble fort, qu'aurait pu porter ce titre. Le titre, c'était « Amédée ou comment s'en débarrasser ». On change le prénom et c'est à peu près ça, quoi. Donc, ce qui veut dire que pour nous, au 1er janvier, C'est ça la décision de la ville de Tours. La ville de Tours décide d'arrêter toutes ces formations. Et alors, bon, maintenant, on a beau jeu de dire oui, on a prévenu M. Cannes-Lopez officiellement depuis un bon moment. Alors, ouais, on, a, ouais, on m'a prévenu. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça.
Et vous, concrètement, vous demandez une discussion avec la
municipalité ? Nous, on demande uniquement de se mettre à table et de voir comment on peut travailler
ensemble. Sans mener au conflit forcément.
Non, mais
juste
pas du tout.
Trouver une solution ensemble.
Je veux dire, les choses sont. C'est ce qu'on demande depuis le début. Alors maintenant, la prise de position de la ville, elle est très claire. C'est on a décidé, il a qu'à obéir. Alors il ne faut pas oublier une chose, c'est que il y a eu dans notre histoire française un moment qui s'appelle 1789. C'est-à-dire que maintenant, il y a plus de vallées. On ne dit pas aux gens, écoutez, moi j'ai le pouvoir, vous dégagez, vous n'existez plus parce que je décide que vous n'existez plus. Non, c'est pas vrai. Moi j'ai consacré ma vie à cette ville et j'ai passé ma vie dans cette ville, même si je m'appelle, mon nom c'est José Manuel Cannes-Lopez, mais je suis tourangeau, je me suis marié à Tours, j'ai fait mes études à Tours, mes enfants sont nés à Tours et il n'y a aucune raison pour qu'un pouvoir politique, quel qu'il soit, me disent « Vous n'existez plus ». Les choses sont claires. Maintenant, on ne demande qu'à discuter.
Du coup, après cette discussion, quelles sont les issues possibles ?
Les issues possibles, c'est à nous de les trouver ensemble.
Oui.
Moi, je sais que pour l'instant, à un moment donné, on a appris par la presse, puisque les dialogues se font par voie de presse, le dialogue entre guillemets, que le lieu ne pouvait plus accueillir de public, qu'il allait tomber en ruine, qu'il fallait le fermer. J'ai demandé à monsieur le maire de le fermer, si effectivement il y avait un péril.
Oui.
Sauf que mettre un arrêté de péril, ça veut dire que le lieu il est effectivement complètement fermé parce qu'il y a effectivement danger. Le lieu, depuis ce jour-là, depuis le 12 mai, ça a été annoncé à la presse par monsieur le maire et madame l'adjointe. On a accueilli plus de 5000 spectateurs. Plus de 5000 spectateurs, il n'y a pas eu un seul problème, parce qu'effectivement, la toiture en mauvais état, oui, on pourrait mettre des filets de protection, on peut faire un phasage des travaux sur plusieurs années, etc. Bon, la dernière chose qui nous est tombée dessus, parce qu'on a des surprises comme ça, qu'on a aussi appris par voie de presse, on n'a même pas appris directement, on l'a su.
Oui, c'est pas des
la ville nous l'a appris deux jours après, qu'il y avait un bureau de contrôle indépendant qui était envoyé pour vérifier si effectivement le lieu était aux normes au niveau de la sécurité, s'il pouvait accueillir du public. Le bureau de contrôle est passé cette semaine, on attend ses conclusions. Je sais que madame l'adjointe et monsieur le maire, lors d'une autre conférence de presse, ont annoncé
qu'ils donneraient leur décision, c'est ça, après le résultat de ces contrôles.
Voilà, donc on bien
coup,
annoncé.
C'était le 21, on est le 23, vous
donc,
avez des nouvelles ?
Non, on n'a pas de nouvelles. On va attendre une dizaine de jours, je pense qu'il faut une dizaine de jours pour... On va attendre, effectivement.
Et ces niveaux de sécurité, vous les aviez déjà... Enfin, c'est tous les ans que c'est renouvelé, et l'année dernière, ça s'était passé.
Non, alors si vous voulez, c'est un peu plus... Il y a plusieurs niveaux de vérification,
d'accord,
parce que les normes évoluent.
Oui, oui.
Après, maintenant, le tout est de savoir si effectivement ce lieu-là peut accueillir du public en toute sécurité ou pas. Moi, j'ai ma réponse, parce que je suis quand même... faut pas non plus oublier que si je vais fêter en janvier prochain mes 60 ans, ça veut dire que je n'ai fait que faire ce travail-là, que je suis un professionnel. Et un professionnel, il travaille sérieusement. C'est-à-dire qu'il vérifie les choses, qu'il analyse, qu'il prend des conseils, qu'il fait venir des gens. Voilà, je sais... je sais que jamais je ne mettrai en danger à l'intérieur de ce lieu un spectateur. Maintenant, on attend avec sérénité les décisions, les conclusions du bureau de contrôle. Et j'espère qu'effectivement, enfin, il nous restera peut-être un petit mois pour se mettre à table et trouver sereinement une discussion où il n'y aura, parce qu'il n'y a jamais dans ce cadre-là, contrairement à ce qu'ils sont mis en tête, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Ce qui est important, c'est les citoyens, citoyens à qui on s'adresse tous. La chose qu'on a en commun entre des hommes politiques, quel que soit leur bord, et des artistes, quelle que soit leur esthétique, c'est qu'on dépend des citoyens ou qu'on travaille pour les citoyens.
Tout à fait.
Ça on l'a en commun et c'est ça le plus important.
Eh bien, le temps passe super vite, je suis vraiment...
Dernier petit point.
Juste, oui, voilà, j'allais voilà, justement
dire
rappeler...
qu'on va faire une grande soirée de soutien à la compagnie avec plus de 40 artistes le 5 novembre prochain. À la Pléiade.
Voilà, à la Pléiade,
ça,
du coup.
Ouais, ça sera, bah oui, pour que ça contienne beaucoup de gens,
oui.
beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup plus que chez nous. Voilà, là, c'est à la Pléiade. Et voilà, pour venir découvrir ce dossier-là et surtout voir la richesse des artistes qu'on peut accueillir et qui nous soutiennent.
Tout à fait. De toute façon, toutes ces informations sont
sur
à retrouver sur donc, le site internet www.leplessis.net, du coup, où on peut aussi retrouver le lien pour signer la pétition. Pétition qui est aussi en ligne sur le site, la plateforme de pétition change.org, je crois.
.org, voilà. Ouais, c'est ça.
Où on peut retrouver voilà, tout ça.
Voilà, et soutenez-nous.
Sinon, il y a aussi votre page Facebook.
Absolument.
Et enfin voilà, on trouve tout ça assez rapidement sur Internet. En tout cas, on vous souhaite de.
Bah, de continuer à travailler ensemble.
Dire, voilà, c'est ça. Et de continuer à travailler. Et...
Bien sûr. Merci à vous en tout cas.
Merci d'être venu nous voir dans Sortez ce soir. Puis bah voilà, on rappelle donc la soirée, c'est le 7 novembre, c'est ça ? 5 novembre.
Jeudi 5 novembre.
Jeudi 5 novembre au Plessis à la Riche. Et donc soirée de soutien à la compagnie. Et,
voilà, et pour une fois, les étudiants peuvent venir picoler à la Pléiade au lieu de boire dans les bars de la ville.
Allez, non, mais il faut y aller, il ne faut pas hésiter à soutenir, on aura bien compris. Eh bien, merci encore. Et puis bah, à très bientôt.